Ndekeluka. Bonjour et bonne écoute à tous ceux qui écoutent Radio Ndekeluka. Bon appétit si vous êtes encore à table, il est 13h. Le journal de la mi-journée avec Karine Estelle Bébé. Karine, bonjour.
Bonjour, je suis Edina Kongwita et bienvenue à tous dans cette mi-journée. La MINUSCA annonce l'arrestation de 14 présumés auteurs des violences armées entre MLCG et FPRC début septembre dernier à Birao. Ces éléments ont été remis à la justice pour nécessité d'enquête. Bonne nouvelle pour les personnes vivant avec le sida en Centrafrique. La deuxième dotation des antirétroviraux est déjà arrivée à Bangui après 6 mois de rupture. Entrave à la libre circulation des habitants de Bambouti dans le Hombomou. Des barricades érigées par les éléments de l'UPC tout au long de la route principale qui relie Bambouti à Obo et au Soudan voisin empêchent la population de vaquer à ses occupations. Sport, encore un départ annulé aujourd'hui des Fauves à destination de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations. Ils quitteront Bangui probablement demain alors que le match est prévu ce dimanche à Kinshasa. À la une, crise sécuritaire entre MLCJ et FPRC fin septembre, début septembre dernier à Birao, la MINUSCA annonce l'arrestation de 14 présumés auteurs de ces violences. Dans un communiqué publié lundi dernier, la mission onusienne en Centrafrique a indiqué d'avoir remis ces éléments à la justice centrafricaine pour nécessité d'enquête. Le point avec Jean-Fernand Quine.
Dans ce communiqué publié le 15 octobre, la MINUSCA a indiqué que les 14 éléments capturés appartiennent au FPRC. Sur demande du procureur de la République, relève le communiqué, 8 d'entre eux suspectés sont remis à la justice, tandis que les autres sont relocalisés à Bria, chef-lieu de la Haute-Côte. Parmi les présumés auteurs de ces violences se trouvent certains principaux bras droits de Noureddine Adam, le numéro 1 du FPRC, et même d'Abdoulaye Miskine du FDPC, dont la présence est signalée dans la région. Joint par Radio Ndekeluka, le porte-parole du FPRC réfute l'information. Cette arrestation de 14 éléments de groupe armé intervient au lendemain de la mise en garde des garants et facilitateurs de l'accord de paix du 6 février par Pierre Lacroix et Ismaël Chergui, respectivement commissaire paix et sécurité de l'ONU pour le premier et commissaire paix et sécurité de l'Union africaine pour le second. Jusqu'à présent, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur l'arrestation de ces éléments accusés d'avoir déclenché les hostilités qui ont fragilisé le tissu sécuritaire à Birao. La MINUSCA, de son côté, appelle toujours le FPRC et le MLCJ à s'inscrire dans le processus du dialogue et du règlement pacifique du conflit. À titre de rappel, les combats entre ces deux groupes rivaux au début du mois de septembre à Birao ont fait plus d'une quarantaine de morts et plus de 20 000 déplacés internes. Ces personnes en détresse vivent dans des conditions humanitaires déplorables.
Merci à vous Jean-Fernand.
Karine Bambouti, dans le Hombomou, la population est de plus en plus enclavée.
Gislain, le député de la localité, dénonce l'entrave des habitants à la libre circulation. Selon lui, les éléments de l'UPC basés dans la région ont érigé des barricades sur la route principale qui relie Bambouti à Obo et au Soudan voisin. Cette situation empêche la population à se ravitailler en produits de première nécessité. Jean-Claude Anou et Bissi Guy, député de Bambouti, est avec Igor Deskin Sinapai.
Comme souvent, c'est les Fakas qui sont à Obo qui font l'escorte Obo Bambouti. Ils ont décidé d'aller verrouiller la voie pour attendre les Fakas là-bas. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y avait des infirmiers et des gendarmes qui avaient quitté Obo pour aller à Bambouti pour vacciner les enfants là-bas. Ils sont bloqués là-bas. Et là où je vous parle, personne ne peut quitter Bambouti aujourd'hui arriver à Obo parce que la voie est coupée en deux par l'UPC. Et je ne sais quel accord que l'UPC a signé avec le gouvernement. Aujourd'hui, au lieu de se focaliser sur l'accord qui a été signé, ils sont en train de faire du n'importe quoi dans le monde. En tout cas, ce que je demande aujourd'hui, c'est de renforcer la présence de Fakas qui sont là-bas. Ils ont cette possibilité-là d'aller libérer la voie. Et je demande aux garants de l'accord de vraiment suivre cet accord qui a été signé par les signataires, y compris les groupes rebelles et le gouvernement. Il faut que ça soit appliqué. Ceux qui ne respectent pas cet accord-là doivent être frappés. Aujourd'hui, c'est cette voie-là qui ravitaille le monde en général. Le sel, le savon, tout vient par l'Ouganda et ça passe par Bambouti. Sinon, la ville d'Obo sera coupée.
Les responsables de l'UPC mis en cause n'ont pas encore réagi à cette accusation.
On célèbre ce 18 octobre la journée internationale de la résolution des conflits.
L'objectif est de prôner la négociation, le dialogue et favoriser le vivre ensemble dans une société sans violence. En Centrafrique, le ministère de l'Action humanitaire et de la réconciliation place cette journée sous le signe de la prévention des conflits à l'école, au foyer, dans la société entre deux groupes armés. Auguste Mayogolo, directeur de l'Action humanitaire au ministère de la réconciliation, au micro de Rolf Domialu.
La solution durable au conflit, ce n'est pas la force physique, c'est pas l'utilisation des armes, mais c'est plutôt le dialogue, c'est plutôt la médiation, c'est plutôt la négociation. C'est dans ce contexte précis, cette initiative a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le message pour l'heure, c'est de sensibiliser la population centrafricaine, les communautés, les différents groupes armés, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, à l'amour du prochain. Parce que nous sommes sans ignorer que notre pays a connu les moments les plus sombres de son histoire. Le pays est présentement à terre suite à ces multiples conflits. Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Raison pour laquelle le gouvernement privilégie la négociation. Tout ceci, c'est pour éviter qu'il y ait des affrontements. Tout ceci, c'est dans le but de ramener une paix durable au niveau du pays.
La Journée internationale de la résolution des conflits a été instaurée en 2005 par l'Association pour la résolution des conflits inclus dans le système des Nations Unies.
Ouf de soulagement pour les personnes vivant avec le VIH-Sida en Centrafrique. Elles pourront maintenant se procurer des antirétroviraux ARV.
La deuxième dotation de ces médicaments est déjà arrivée à Bangui après 6 mois de rupture. L'annonce a été faite hier par le réseau centrafricain de personnes vivant avec le VIH-Sida RECAPEV. Bienvenue Erle Gazalima, administrateur au RECAPEV, met toutefois en garde certains personnels, j'allais dire, soignants qui continuent de vendre ces ARV. Bienvenue Erle Gazalima est au micro de Eda Lutinjiko.
On a passé 6 mois de rupture de médicaments deuxième ligne, dont il y a 4000 patients qui sont sous cette molécule, on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, dont je vous parle, ces médicaments sont disponibles dans les formations sanitaires. Nous sommes là pour parler aux patients qui sont sous ce traitement d'aller dans leur formation sanitaire d'en procurer. Et ces traitements, dont je mets un accent particulier, c'est gratuit, c'est pas payant. Parce que le ministère de la Santé publique, en collaboration avec les partenaires internationaux, ont mobilisé des ressources pour payer ces médicaments pour donner à nos parents qui souffrent de cette maladie de l'en bénéficier gratuitement. On a constaté dans certains sites de formation sanitaire, il y a des brebis galeux qui vendent ces médicaments de manière illicite. Nous sommes là pour rappeler à tous ces patients qui, s'ils constatent des faits comme ça, ils n'ont qu'à directement alerter le réseau centrafricain des personnes vivant avec le VIH-Sida pour vraiment intervenir. J'en profite de cette occasion de lancer un message auprès des personnels soignants d'assurer un bon accueil avec les patients vivant avec le VIH-Sida. Parce que si les patients ne sont pas bien accueillis, ils vont fuir l'hôpital. Aujourd'hui, dans le pays, on a reçu beaucoup de cas de perte de vue. Ça coûte de mauvais accueils de certains personnels soignants.
On dénombre environ 4000 personnes vivant avec le VIH-Sida en Centrafrique.
Autre actualité, les habitants du 6e arrondissement déplorent la dégradation de Kolongo et des quartiers environnants.
Ils accusent les fabricants de briques d'avoir détruit l'environnement. Le ministère de l'Environnement et la mairie du 6e arrondissement annoncent la suspension de ses activités pour la protection de ce secteur. Une enquête exclusive Radio Ndekeluka, signée Rolf Domialu.
Lorsqu'on entre dans cette villa, à première vue, c'est la dégradation de l'environnement. Des fossés creusés pour la fabrication des briques cuites à ciel ouvert, des mares partout, certaines habitations complètement tombées en ruine. Voilà le décor qu'offre cette villa. Les responsables de la mairie du 6e se disent dépassés. Jean Gonavo, premier conseiller à la mairie du 6e arrondissement.
Ces jeunes ont été sensibilisés. Il était question de les déloger et de trouver un site vers le secteur Samba pour les installer. Mais alors, où en sommes-nous? Ces jeunes demeurent. La force appelle la force. Et la mairie du 6e arrondissement n'a pas de force de répression.
Frédéric Ngakula, l'un des fabricants de briques sur le chantier de Villa Kolongo, justifie l'exploitation à outrance de la terre par le manque d'emploi pour les jeunes.
Nous sommes là en train de produire des briques. Nous avons des enfants qui vont à l'école et c'est à travers cette activité que ces enfants vont à l'école. Je demande aux autorités centrafricaines de jeter un coup d'œil sur nous. Parce qu'ici, on travaille pour lutter contre la pauvreté, mais eux, ils ne pensent pas à nous.
Outre l'exploitation du sol, les bois sont coupés de manière anarchique dans le secteur pour la fabrication de ces briques cuites. Bernard Bombou, chef de service au ministère de l'Environnement.
La conséquence est quoi? C'est que quand ils creusent les trous et que quand il pleut, il y a inondation. Ça constitue ce qu'on appelle un habitat des anophèles femelles, le paludisme. À la longue, vous allez voir tout autour, il y aura une vaste étendue d'une zone marécageuse. Donc, on est en train de s'organiser au niveau du ministère pour voir quelles mesures il faut faire.
Selon les habitants du 6e arrondissement, si rien n'est fait, Villa Kolongo risque de devenir une zone marécageuse. Ils appellent le ministère de l'Environnement à la délocalisation de ces jeunes sur un autre site pour éviter la détérioration de l'environnement.
Rolf Domialu sur Radio Ndékéluka.
La population de la commune de Balé-Loko, en particulier celle de la Loba et en général, peuvent désormais consommer du miel de bonne qualité.
25 apiculteurs des villages Kokombe, Safa-Loko, Loko, Safa-Moscou, Zomia et SCAD ont été formés du 13 au 15 octobre dernier par l'ONG Kopi. Ce renforcement de capacité était axé sur la fabrication des ruches, les méthodes modernes d'élevage des abeilles et les nouvelles techniques d'exploitation du miel. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet Appui aux personnes vulnérables financé par le Fonds Bekou de l'Union européenne. Hervé Yangani, chef de projet Bekou Kopi, explique l'importance de cette initiative au micro de notre correspondant Michel Martial Boboya Mbaïki.
Nous venons d'effectuer une mission de travail dans la commune de Balé-Loko, principalement à SCAD. C'est pour appuyer nos bénéficiaires, principalement les apiculteurs. Ils sont au nombre de 25 ménages précis. Il fallait nécessairement un renforcement des capacités. Donc, on ignore que les producteurs qui sont là-bas, c'est déjà des personnes aguerries. Ils font la pratique, mais ça n'empêche qu'on renforce leurs capacités. Donc c'était un échange. On a organisé une formation, renforcement des capacités, un échange avec un expert qu'on a amené de Bangui.
Karine, à l'international en République démocratique du Congo, les discussions se poursuivent autour du rapatriement au Rwanda des ex-combattants du M23.
Oui, Ghislain, à la demande du Rwanda, le gouvernement congolais a entamé des discussions en vue du retour des ex-combattants du M23. Depuis leur défaite en 2013, ils demandent à être amnistiés et à rentrer en vain. À la mi-juillet, sur demande du Rwanda, le gouvernement congolais avait accepté d'envoyer une délégation à Kigali pour négocier le rapatriement de ses membres. Selon le rapport conjoint de cette mission d'évaluation, sous la facilitation rwandaise, la délégation de la RDC et les leaders de l'ex-M23 ont discuté de l'amnistie de ses membres, leur intégration au sein de l'armée et le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Rwanda. Si trois mois plus tard, côté M23, on redoute des blocages, plusieurs sources sécuritaires congolaises assurent que les discussions se poursuivent. C'est l'heure des sports sur Radio Ndékéluka avec Providence Sudi Orumbondi. Bonjour.
Bonjour Karine Estelle Bébé, bonjour à tous.
Le doute plane au sujet du départ des Fauves pour Kinshasa afin d'affronter les Léopards de la République démocratique du Congo ce dimanche en match retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations.
La délégation composée de 30 personnes, parmi lesquelles 20 joueurs, devait quitter Bangui ce matin. Malheureusement, ce voyage est encore reporté à demain matin selon les responsables de la fédération. Entre-temps, le sélectionneur Bruce Abdoulaye est confiant pour ce match malgré le retard de 2-0 du match aller le 22 septembre dernier à Bangui.
Poursuite au stade Barthélemy Bouganda de la deuxième journée du championnat de football de la deuxième division de la Ligue de Bangui.
Aujourd'hui à 15h, Université Football Club de Bangui reçoit Club Athlétique de Bangui. Demain à la même heure, Racing Club du 3e sera opposé à Pétené. Hier, Sika Sport a eu raison de Assopété 2-0.
Dans le 4e arrondissement de Bangui, une rencontre au programme pour le championnat de football cet après-midi.
Sur le terrain de l'école Dresté à Bouirab, la première journée se poursuit avec la rencontre Black Star FC Karting. Toujours dans cette sous-ligue, GSP a battu hier Célissao 1-0.
Enfin, Providence, sur le terrain de l'UCATEX dans le 8e arrondissement, la 24e journée du championnat de cette sous-ligue se poursuit également cet après-midi.
Oui, Karine, cette 24e journée se joue au rythme de 2 matchs par jour. À 14h, Fombeka sera face au club AS Galabadia, puis les Anges de Yangato joueront contre Galaxy à 16h. Demain, combattant Kwazura FC Prévoyance, suivi de la rencontre Saint-Denis contre Réveil de Sinistre.
Et bien voilà, ainsi prend fin la partie française de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.